Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, à Noël, on ne sait jamais quoi offrir à nos ados. Mais cette année, on a trouvé le cadeau idéal. 2 heures dans leur forfait. Et vu le prix, c'est aussi un cadeau pour nous. Alors, c'est qui les parents trop géniaux?
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez du forfait starter 2 heures à 0€ par mois pour les clients box pendant un an, puis 5€ par mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition, valable jusqu'au 8 janvier 2018 pour toute nouvelle souscription. Prix multipack sans mobile avec engagement 12 mois.
RMC Motors, en direct de Val d'Isère pour les RMC Sport Games, Jean-Luc Roy.
Et oui, bonjour à tous, en direct de Val d'Isère. Effectivement, il fait un temps à mettre plutôt des 4x4 dehors, mais vous allez voir qu'on va même mettre des Formule 1 dans la première partie de cette émission qu'on a le plaisir de vous présenter depuis Val d'Isère. Avec moi, bien sûr, Adrien Tambay, on va pas le lâcher comme ça. Salut Adrien.
Salut Jean-Luc,
salut à tous. Angoissé par la neige, hein, mais c'est plutôt pour la descente.
Ça va aller.
Jean-Luc Chrétien, lui, il a l'habitude déjà, il était déjà sur les pistes pour le salon. Salut Jean-Luc.
Bonjour Jean-Luc.
Merci de rester avec nous. On va vous parler de Formule 1, je vous l'ai dit, on va revenir un petit peu sur la saison, mais surtout parler d'un nouvel arrivant, on va dire qu'il est francophone. On va pas tout de suite se l'attribuer, ce petit jeune-là, mais vous allez voir qu'il a beaucoup de talent. Il s'appelle Charles Leclerc. Ensuite, on partira sur les pistes de Dakar, en fait, avec l'Africa Ecorace. C'est Jean-Louis Schlesser va nous parler de cette épreuve qui partira le 31 décembre prochain depuis Monaco et qui se rendra à Dakar. Et puis, vous le savez, à la fin, c'est Radio Paddock avec Benoît Boutron. On va aborder plusieurs sujets, dont le rallye des championnats du monde avec le maintien, et c'est une bonne nouvelle, évidemment, de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia au commande d'une Ford. Mais voilà, tout de suite, on débute l'émission. On va monter dans les tours et on est monté en altitude. C'est le tour de chauffe.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Eh ben voilà, enfin le tour de chauffe, là on peut dire que c'est adapté aux conditions météorologiques. On va vous parler donc de Formule 1. Alors Adrien, il se trouve que tu le connais extrêmement bien, ce jeune Charles Leclerc, à peine 20 ans. Il a eu 20 ans au mois d'octobre et on peut dire que sa trajectoire, puisque là on est dans la neige, a été absolument imparable jusque-là pour le mener sur la grille de Formule 1, puisque c'est confirmé, il sera présent au sein de l'équipe Sauber Alfa Romeo.
Oui, il a eu un parcours parfait ou presque, et en plus de ça, il a eu des moments aussi difficiles dans sa vie, Charles, à vivre. Il a perdu son papa l'année dernière, qui était un très bon pilote de Formule 3 notamment, Hervé. Et puis, il était le petit frère de cœur de Jules Bianchi, qu'il a perdu aussi. Et malgré ça, il est managé par le même manager que Jules Bianchi, qui à l'époque c'est Nicolas Todd. Il est soutenu par la même marque, par Ferrari, et malgré ça il a réussi à gagner le GP3, la F2, tout ce qu'il faut faire pour arriver en Formule 1, et aujourd'hui il a sa chance, et quelque part c'est très très juste, et on est très très heureux pour lui.
On est absolument heureux pour lui. En plus, tu le connais bien, c'est un type extrêmement sympa, et on aime bien ces jeunes pilotes qui ont des valeurs et qui ont du respect pour le passé. Tu as évoqué sa trajectoire difficile, trajectoire talentueuse. Jean-Luc, on parlait risque, vous en avez parlé malheureusement tout à l'heure. On va pas démarrer cette émission dans la tristesse, mais comme vient de le rappeler Adrien, effectivement le sport mécanique et le sport automobile comme le ski est parfois frappé par ces circonstances-là. Quand on est un jeune pilote comme Charles et qu'on débarque dans le grand bain de la Formule 1 avec une chance exceptionnelle, on rappelle que il fait partie de la Ferrari Driver Academy. Donc c'est quelqu'un qui a été couvé, en tout cas choisi depuis quelques années par Ferrari, et il arrive au sein de cette équipe Sauber Alfa Romeo. Tu sais qu'Alfa Romeo fait partie du groupe Ferrari. Voilà. Donc là, effectivement, c'est une pression positive. J'allais demander, toi, en tant que champion, quand tu débarques dans le grand bain comme ça.
Je dirais que c'est une pression juste. Positive et juste, en fait il est dans un cocon, il est entouré par du coton, et à lui de prouver par son savoir-faire que les gens qui ont misé sur lui ont fait le bon choix, et donc toutes les portes s'ouvrent, ou en tout cas s'entrouvrent, et ça peut être quelque chose de juste phénoménal. On voit d'ailleurs Hamilton, hein, il a été couvé aussi
bien sûr, dans et même, bien de le rappeler, voilà, par Ron Dennis et par McLaren.
C'est vraiment il est sur la route des grands de la F1, et pourquoi pas d'autres disciplines, hein. On sait que la F1, derrière ils peuvent basculer sur de l'endurance ou autre chose.
Ah, et là je crois qu'il est bien focalisé sur la F1. Adrien, il a eu l'opportunité de participer à certaines séances d'essai le vendredi matin. Ça, c'est toujours la manière de mettre le pied à l'étrier pour un jeune pilote, parce que on sait que malheureusement on roule peu en Formule 1 maintenant, donc les opportunités au-delà du simulateur, hein, de mettre vraiment les pneus et comme on dit le cul dans le baquet vraiment sur la piste, ça c'était important.
Ben c'est très important, et puis comme on parlait de pression, ça permet de rentrer un peu, de se mettre en route sans avec un peu moins de pression. Après, c'est à lui de maintenant d'être capable de transformer cette pression en pression positive, parce que de toute façon, c'est ça qui nous les sportifs en général, on vit pour cette pression.
Ouais.
On l'aime, et c'est quand on arrive à la transformer en adrénaline et en pression positive qu'on est les plus performants. Un sportif sans pression, il fait rien.
Bah oui, c'est pas un champion. Moi,
j'ai une question, Jean-Luc, pour Adrien. Et là, c'est l'auditeur qui vous écoute habituellement dans sa voiture. Adrien vient de parler des simulateurs. Est-ce que véritablement ça a apporté une évolution intéressante ? Parce qu'on a du mal à imaginer des sensations dans une voiture sur un circuit et en prenant des courbes avec des jets phénoménales, et être assis sur une chaise avec un simulateur et retrouver quelque part le même feeling.
Alors là, je vais pas avoir la langue de bois du tout, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime pas, les simulateurs. Je te dis ce que je pense.
De répondre.
C'est quelque chose qui est très utile pour les ingénieurs. Pour apprendre les circuits, pour régler la voiture en amont,
le timing,
parce que tous les essais,
d'accord,
sont réglementés, on n'a pas le droit de faire trop de jours d'essais.
Tu peux pas y aller, d'accord, avant.
Donc il faut bien trouver des moyens pour gagner du temps, entre guillemets, et c'est pour
et
ça
arriver
que
arriver avec un bagage plus important.
C'est utilisé. Ouais.
Et puis les simulateurs, justement, pour ajouter un mot à ce que disait Adrien, sont tellement formidables maintenant. En fait, les pilotes sont dans un environnement qui est ultra réaliste, quoi. C'est absolument
C'est pas les simulateurs qu'on a à la maison.
Non. C'est pas du tout ça. C'est pas un jeu vidéo, si tu veux. Alors, on va faire un petit saut, si vous le voulez bien. On va pas très loin. Hein. Sur la piste de Val d'Isère, effectivement, pour le slalom, on va retrouver Morgane. On n'est pas loin de la fin, je crois, des concurrents, Morgane.
Non, il ne reste plus qu'un seul concurrent à s'élancer. Jean-Luc, c'est l'Italien Stefano Gross, meilleur temps de la première manche et une deuxième manche extrêmement chaotique à cause des chutes de neige. Mais celui qu'on retrouve au sommet du classement, c'est le Kaiser du ski, Marcel Hirscher, 11e place provisoire pour Julien Liseroux, 12e place provisoire pour Jean-Baptiste Grange. Les Français qui n'ont pas su jongler avec les conditions météo, Sébastien.
Ah, ils ont joué, hein, nos deux vieux, ils ont joué jusqu'à moitié de parcours. Malheureusement, ils ont faibli un peu sur la fin du tracé. Et puis le roi Marcel Hirscher a su vraiment surhausser aussi son ski. On l'avait vu un peu plus hésitant lors du premier tracé, mais il a enfoncé le clou lors de la deuxième manche. Devant Christopher Sen qui a fait du très bon ski, mais qui peut échouer qu'à 4 dixièmes de Marcel Hirscher.
Et on peut l'annoncer, Jean-Luc, Stefano Gross qui est sur la face de Bellevarde en ce moment ne détrônera pas Marcel Hirscher. Donc victoire de l'Autrichien et top 15 pour les Français Julien Liseroux et Jean-Baptiste Grange. On rappelle qu'Alexis Pinturo, vainqueur du slalom géant hier, 9e de la première manche, n'a pas réussi à terminer son deuxième run, certainement fatigué. Maintenant direction l'Italie pour les skieurs français.
Super, merci beaucoup. Effectivement, en regardant par la fenêtre, hein, nous depuis le studio RMC, là, des RMC Sports Game, on peut vous dire que ça tombe, mais alors à gros flocons, un petit peu d'angoisse en plus là pour Adrien, pour la descente, ça va pas être l'endroit cela, Adrien. Mais bon,
j'ai des pneus d'été.
Dans le pied gauche, en fait.
De toute façon, Jean-Luc peut te confirmer un truc, on arrive toujours en bas, hein, Jean-Luc. On sait
toujours
pas dans quel état, mais on y arrive.
Bon,
c'est une bonne nouvelle. On parlait de Charles Leclerc il y a un instant, donc le nouvel arrivant, le nouvel impétrant en Formule 1 au sein de l'équipe Sauber Alfa Romeo, il faut le dire et le répéter, sous l'égide de Fred Vasseur. On en dira un mot tout à l'heure, mais on va tout de suite, si vous le voulez bien, écouter justement Charles Leclerc, le monégasque, francophone et francophile, encore une fois s'exprimer sur sa titularisation. C'est au micro de Louis Amar.
Ça fait du bien, c'est juste incroyable. C'est vrai que c'est un rêve de depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé. C'était un de mes objectifs, arriver en F1 un jour. Et enfin y arriver, c'est juste top. Donc voilà, mais bon, je réalise pas complètement encore. Je pense que je réaliserai quand je serai au premier Grand Prix dans la voiture sur la grille de départ.
Il va réaliser, hein, Adrien. Il n'y a pas de problème. Il s'est préparé mentalement, on va dire, depuis plusieurs années, puisque c'est une trajectoire linéaire tendue vers cet objectif, déjà figuré de manière permanente sur une grille de départ. Ce que n'avait pas eu l'occasion de faire Charles précédemment, à l'inverse de Giovinazzi, un pilote qui était en concurrence avec lui. On peut dire que déjà, il a gagné le premier Grand Prix contre Giovinazzi pour accéder à ce baquet de la Formule 1.
Oui, sauf que Charles, il a tout gagné avant la Formule 1, au contraire de Giovinazzi, qui s'est incliné face à un autre Français, face à Pierre Gasly. Il a vraiment tous les éléments pour lui, Charles, et encore une fois, j'y reviens, mais il me fait beaucoup penser à mon ami Jules, dans l'attitude, dans la simplicité, dans le travail, dans la bonne bouille. Et pour moi, il a vraiment tout. Il a la rapidité. Et s'il a les éléments, si on lui donne les outils, si on lui donne le soutien chez Ferrari, j'espère juste qu'il aura la chance plus rapidement que Jules d'avoir une voiture compétitive. Après, ça reste un sport mécanique et on saura pas avant mars l'année prochaine si l'Alfa Romeo Sauber lui permettra d'avoir quelques bons résultats dès sa première année.
Et on rappellera évidemment, Adrien, tu t'en souviens aussi, Jean-Luc, que précisément Jules Bianchi, dont nous parlions, avait arraché ses points très précieux pour son équipe à l'époque et à Monaco, justement, Monaco, qui est un circuit vraiment atypique, vraiment emblématique. Alors là, on peut dire pour Charles Leclerc que lui, c'est ce que disait Rosberg, qui avait été élevé à Monaco, bien qu'allemand de nationalité, il avait vécu à Monaco, un pilote qui connaît comme ça chaque mètre, presque chaque centimètre du circuit de Monaco, qui est vraiment vraiment l'épreuve ultime.
Oui, là on peut que dire qu'il joue à domicile, hein. Il connaît le moindre. Dès qu'il change un morceau de goudron, il est au courant. il peut le faire à pied, il peut le faire en vélo, il peut le faire en voiture. Mais moi, j'avais une question. Je me mets un petit peu à la place d'un auditeur, un jeune qui arrive, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça signifie pour lui d'arriver dans une équipe avec une structure, alors que jusqu'à là, il était dans l'antichambre un peu de la F1.
Avant la Formule 1, il y a quand même des équipes qui sont très très professionnelles, avec certes beaucoup moins de personnes qui travaillent, beaucoup moins d'ingénieurs,
mais
quelque part, il y a aussi de très bons éléments et on se construit en GP3, en Formule 2, et quand on arrive comme ça en Formule 1, on est normalement à peu près on est prêt en fait.
Et ça coûte quelque chose par exemple
oui bien sûr, si Charles n'avait pas eu le manager qu'il a, Nicolas Todd, et le soutien
et
de Ferrari,
il
serait pas arrivé jusque là. Ça coûte quelques millions d'euros de budget pour arriver jusqu'en F2 et
vous comprenez ma question.
Bien sûr,
je pense que les auditeurs ont besoin de savoir aussi que voilà, il y a un coût, il y a des ingénieurs, il y a tout à payer derrière, quoi.
C'est tout le problème du sport dit mécanique, justement, comme tu le sais, Jean-Luc, effectivement, toi...
Mais on en a besoin, Jean-Luc, pour notre quotidien, nous.
Et au contraire, de toute façon, bon, c'est un sport qui joue, justement, sur la qualité du matériel dont on dispose, et Adrien, tout à l'heure, faisait référence à ça, parce que, on est obligé de reparler de Jules dans le bon sens, bien sûr, et on salue, évidemment, Mauro Bianchi, très très chaleureusement, et toute la famille de Jules, qui nous équipe certainement, comme tous les dimanches. Juste, je voulais dire que le fait d'être couvert, comme on le disait, d'être choyé par une équipe aussi prestigieuse que Ferrari. Voilà, d'être amené, d'être programmé, d'être planifié presque. Alors après, faut le talent, faut être capable de confirmer, et c'est bien ce qu'on va attendre de lui, même si, ne soyons pas dupes, il ne gagnera pas un Grand Prix, hormis circonstances exceptionnelles, en 2018. Hein. Je crois que ça, Adrien, on peut a priori le dire, sauf la pluie.
Souviens-toi de Vettel avec Toro Rosso, à Monza il y a quelques années. La Sauber, avec un moteur Ferrari peut très bien être bien né l'année prochaine, mais encore une fois, on n'aura pas de réponse avant mars.
Alors, je vous propose d'écouter Charles Leclerc, justement, toujours micro de Louis Hamar, pour parler justement de cette arrivée au sein de cette équipe qui porte le nom prestigieux d'Alfa Romeo. En quelque sorte, c'est également le retour officiel d'Alfa Romeo qui a été décidé par Sergio Marchionne. On va voir ce qu'il en pense, Charles.
Pour tout fan de F1 qui ont suivi la F1 dans les années passées, connaissent Alfa Romeo, savent à quel point c'est historique. Ils ont gagné 2 championnats du monde en F1, donc c'est quand même un gros team qui revient. Ça me rajoute pas forcément de pression, mais par contre, je suis très heureux de faire partie de leur retour en F1 et j'espère qu'on aura des bons résultats pour leur première année, pour leur retour en Formule 1.
Et oui, ce serait sympa, effectivement. Et on rappelle, évidemment, hein, qu'il ne sera pas seul dans cette aventure. Il y a un manager français, justement. On va faire un peu de cocorico, là, qui est aux manettes, Fred Vasseur, qui était passé rapidement au sein de l'équipe Renault. Bon, pour des raisons, on va pas revenir là-dessus. Il n'a pas pu rester au sein de cette équipe Renault, mais c'était pour mieux rebondir, lui aussi, parce que Fred Vasseur, il a tout gagné tout le temps. Il a managé pratiquement tous les champions du monde récents, de Rosberg à Hamilton, etc. Tu le connais bien également.
Oui, c'est quelqu'un d'incroyable, Fred. J'ai eu la chance de rouler pour lui en Formule 3 avec Jules Bianchi, avec Valtteri Bottas, avec Esteban Gutiérrez. Et effectivement, je crois que chez Renault, il n'était pas très heureux. Et c'est quelqu'un de très très franc. Il y en a pas beaucoup dans le milieu. Enfin, en tout cas, des gens aussi entiers.
Il est pas politique.
Des gens aussi entiers que Fred, il y en a pas beaucoup. Et il avait pas la liberté qu'il voulait avoir pour faire changer les choses chez Renault. Il est parti et puis il a eu cette proposition. position qui est tout à fait normale. Et aujourd'hui, les choses ne se font pas par hasard. Hein. Il est très proche de Nicolas Todt, puisqu'on sait qu'il était associé avec Nicolas Todt dans son équipe Art Grand Prix. Et le fait que Charles Leclerc arrive et soit son pilote à partir de l'année prochaine, et ben voilà, c'est une belle histoire. Et maintenant, je pense qu'il va le couver et qu'il va l'aider dans sa première saison en Formule 1.
Et Fred Vasseur, il a eu l'intelligence, évidemment, et il a anticipé les choses, puisqu'il a confié les responsabilités au sein de cette équipe dont tu parlais, Art Grand Prix, à des responsables. Lui n'intervient plus directement, pour ça qu'il était parfaitement libre pour cette nouvelle magnifique aventure de la Formule 1. Et là, c'est vraiment le patron. Hein. On a eu quelques hésitations aussi avant que Fred ne reprenne. On savait pas déjà quel deuxième pilote il allait garder. C'est finalement Marcus Ericsson.
Je crois qu'il y a eu plein de conditions, notamment le moteur, plein de choses.
Qu'il devait partir avec Honda.
Exactement.
Hein. C'était signé ou quasi signé.
Il a fait annuler plus ou moins le deal avant de lui de s'engager avec Sauber. Et c'est quelqu'un qui est là pour gagner. Même si pour Sauber, ça sera compliqué pour Alfa Romeo de gagner dès l'année prochaine. Ouais. On sait que la Formule 1, c'est très compliqué. Mais il est là pour gagner et il est là pour faire du mieux possible. Et encore une fois, s'il n'a pas toutes les manettes, il ne le faisait pas.
Il ne le faisait pas, effectivement. Alors, on va écouter une autre réaction de Charles Leclerc avec les ambitions pour cette saison 2018. On y reviendra tout à l'heure dans la dernière partie de cette émission. On évoquera le calendrier qui sera bien rempli avec ça, vous le savez déjà, 21 Grands Prix au compteur et notamment le retour du Grand Prix de France et du Grand Prix d'Allemagne. Écoutons d'abord Charles Leclerc au micro de Louis Amar parler des ambitions de l'équipe Sauber Alfa Romeo.
Bah, c'est toujours difficile. C'est vrai que dans les catégories juniors, on peut toujours essayer de viser le titre. En F1, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que les voitures sont très différentes. Donc, ce sera surtout d'essayer de faire le meilleur job possible avec ce que j'aurai dans les mains. Et ensuite, on verra par la suite ce qui est possible après les premiers tests. Mais c'est vrai qu'avant de poser la voiture par terre, c'est toujours difficile d'espérer n'importe quel résultat.
Ben oui, je crois que ce serait la une vraie boule de cristal. Jean-Luc, moi j'ai envie de te poser une question sur le management des jeunes sportifs, des jeunes pilotes de haut niveau. Adrien fait référence à plusieurs reprises à Nicolas Todt. Fred Vasseur, c'est une famille également dans laquelle ça, pour un jeune skieur, c'est aussi important que pour un jeune pilote?
Bien sûr, je pense qu'il faut savoir s'entourer correctement. Et pour faire un grand pilote d'un jeune qui a du talent, s'il est mal entouré, on va droit dans le mur. Excusez-moi l'expression.
Le mur de neige, en l'occurrence, pour toi.
Pour moi, le mur de neige, le mur pneu pour la voiture ou
le dans le talus
pour le rail. Voilà. Mais c'est une équipe. Hein. C'est une équipe. Et d'un bourricot, vous en ferez jamais un cheval de course.
Ça, c'est
par contre, quelqu'un qui a un savoir, qui a une culture, qui a un potentiel, s'il est bien entouré, s'il est bien choyé et bien orienté et amené au summum de ses capacités, on peut très rapidement avoir des très bons résultats.
Ouais, des très bons résultats. Bon, on le disait, Adrien, et encore une fois, on ne va pas déflorer cet aspect calendrier. C'est vrai que maintenant, la charge des pilotes est absolument énorme, même si les essais hivernaux, pour le moment, on le sait, c'est deux séances de 4 jours, elles vont être absolument primordiales. Hein. Peut-être plus que pour tout autre, pour Charles, qui va là être vraiment dans la peau d'un pilote de Formule 1 à plein temps maintenant. Et en développement avec cette équipe, tu parlais de ce moteur Ferrari qui sera certainement, on va dire, d'une génération plus proche hein, du moteur de 2018 que dans le passé.
Moi, je me fais pas de soucis pour Charles en ce qui concerne la charge de travail. Quand on arrive comme ça en Formule 1, on est très enthousiaste. On à mon avis, on fait tout ce qu'il faut pour s'améliorer et pour que son équipe soit contente. Toutes les journées de simulateur qu'il va pouvoir faire pendant l'hiver, il va l'écumer, je pense. Et puis ensuite, être très efficace pendant les peu de jours de tests hivernaux qui va y avoir, c'est la particularité du sport mécanique et de la Formule 1. On peut pas rouler tous les jours, on peut pas prendre ses skis et aller descendre une piste tous les jours ou prendre sa raquette et aller jouer. Ça coûte beaucoup d'argent et donc du coup, c'est règlement. Il y a un règlement et on a quelques jours d'essai pour faire le maximum et pour se préparer au mieux pour la saison.
Voilà, on va dire tiré la première ligne droite de Motors depuis Val d'Isère pour les RMC Sports Game. On va passer à d'autres chapitres, d'autres horizons. Je vous l'ai dit, on va partir dans le désert en Afrique en direction Dakar dans un instant avec Jean-Louis Chesser. Et puis, vous allez le voir, on abordera plusieurs sujets à la fin. Je vous rappelle par parenthèse, mais vous le savez déjà, que Jean Todt a été réélu à la présidence de la Fédération Internationale de l'Automobile pour une durée de 4 ans. Ce sera son troisième et dernier mandat. Vous êtes dans Motors sur RMC et vous restez avec nous.
RMC Motors en direct de Val d'Isère pour les RMC Sport Games. RMC Motors en direct de Val d'Isère pour les RMC Sport Games. Jean-Luc Roy.
Et ben voilà, vous savez tout, on aborde effectivement la deuxième ligne droite de ce Motors enneigé, un peu spécial. Certains de ceux qui nous accompagnent ici sont déjà transformés en bonhommes de neige, mais nous on va garder l'esprit clair et ça commence bien puisqu'aujourd'hui, grâce à RMC, je vous offre l'occasion de gagner une expérience incroyable. Accrochez-vous bien, votre Smart Box dose d'adrénaline, vous pourrez vous essayer à la chute libre, à la conduite sur circuit ou encore au saut en parachute. Pour tenter votre chance, il suffit d'envoyer RMC. Assez simple, par SMS au 7 32 16. À vous de jouer et bonne chance.
Le plus grand nombre d'idées cadeaux pour offrir des moments à vivre inoubliables avec Smartbox, le cadeau à vivre.
Vous le savez, on va passer maintenant à l'invité de Motors.
RMC Motors.
Gauche 90, 150 mètres, droite ligne, droite 120.
Le briefing.
Alors effectivement, ça va être un petit peu moins précis que le roadbook que vous avez entendu en fond pour le lancement de ce jiggle, Adrien. Là, dans les rallyes africains, on a pas comme ça virage par virage. Hein. Le roadbook est un poil moins précis.
Ouais, j'ai eu moi la chance de faire du rallye, mais pas du rallye raid, et c'est quelque chose effectivement d'exceptionnel. Et j'ai hâte d'entendre Jean-Louis Schlesser.
Et ben voilà, on l'accueille tout de suite avec Jean-Luc Chrétien. On l'accueille Jean-Louis Schlesser, l'organisateur de l'Africa Ecorail. Salut Jean-Louis.
Salut les amis, salut.
Écoute, tu nous rejoins dans un décor hivernal. Évidemment, toi, tu vas partir du froid, encore que hein, le départ de l'épreuve à Monaco le 31 décembre, les conditions météo, ça devrait encore aller là pour le début.
Écoute, l'année dernière, on a eu du très beau temps. Et puis, tu sais, on est très près de Menton. Et c'est la ville où on va faire nos contrôles techniques et administratifs. Et c'est l'endroit, je crois, le plus tempéré de France donc à l'année. Donc, j'espère que cette année, ce sera pareil.
Eh ben, écoute, on l'espère de tout cœur. Alors, Jean-Louis, on rappelle cette épreuve que tu organises maintenant et que tu as de surcroît remporté à 6 reprises. Hein. Tu as été vainqueur de cette épreuve avec tes fameux buggy. À moto, c'est Paul Anders Ullevaldstätter qui l'a emporté à 2 reprises. Alors, raconte-nous. En fait, c'est pas le Paris-Dakar, là, c'est le Monaco-Dakar en quelque sorte.
C'est devenu le Monaco-Dakar. C'est la troisième fois que nous partons de Monaco. Donc, pour nous, c'est un peu symbolique parce que Monaco, c'est quand même le temple de la vitesse et tout ce qui est de plus sophistiqué. Et par contre, nous, on part de Monaco, on va à Dakar et on va rouler dans le sable. Et notre épreuve, bien sûr, elle a tout ce qu'il y a de moderne au niveau de la des communications, de la radio, de la télévision, de la presse, puisqu'on a on est vraiment super équipé. Par contre, on vit toujours comme ce que l'on vivait dans le temps, c'est-à-dire on dort tous sous la tente.
Bah oui, ce qu'on a connu.
Il n'y a absolument
hein.
pas. Voilà, c'est ça. On ouais. a connu ça, toi aussi. Bah, d'ailleurs, oui. quand tu m'as pris, je me suis dit, tiens, il veut venir faire le reportage. Ah. Fausse joie pour moi. Non, mais bah oui, tu connais bien tellement ça, toi aussi.
Oui, oui, j'en ai fait quelques-uns, oui.
Tu pourrais amener Patrick, remarque, le papa.
Oui.
De, hein, il l'a bien connu aussi. Donc,
oui,
on sera un plaisir de vous recevoir en tous les cas. Mais ce que
gentil.
Je veux te dire, c'est que on vit donc une aventure extraordinaire parce que tout ce qu'il y avait de condensé à l'époque, eh bien, on le retrouve. On est sous la tente. Les étapes sont dures, mais on va dire qu'on part de bivouac en bivouac, ce qui n'est pas le cas de toutes les épreuves. On n'a pratiquement pas de liaison.
Ouais, ça,
l'entraide,
important.
Eh bien, voilà, l'entraide est de mise. Hein, tu sais, c'est comme par le passé, quand il n'y a pas de. On se voit le soir au bivouac. Moi, il m'est arrivé de dîner avec différents concurrents. Donc, c'est pas le noir absolu lorsqu'on arrive au bivouac. Tu sais, comme sur certaines sur certaines épreuves où
ça peut arriver.
Vite, où est l'hôtel, voilà.
Ouais, c'est
faut
clair,
vivre
c'est clair.
Ça.
Alors, on rappelle. Oui, oui, vas-y Jean-Louis, sinon j'allais parler du parcours.
La spécificité de notre épreuve, excuse-moi, c'est que c'est la seule épreuve aussi qui mélange le classement, et toi tu as bien connu ça à l'époque, entre les autos et les camions.
Et oui, alors on va en parler de ce plateau camion parce que tu as une très belle nouvelle. Je voulais revenir juste sur le parcours hein, pour situer le décor. On part de Monaco, vous allez à 7, on prend le bateau, on arrive à Nador,
voilà.
Et puis Dakla, ce sera, je pense, un peu la journée
de repos.
Voilà, le 7, hein, donc
la
à la mi-parcours.
De repos,
et puis Chibeti en Mauritanie, qu'on connaît tous, hein, qui est un endroit absolument
voilà.
mythique.
Voilà.
Donc la chance qu'on a, c'est de faire. Donc avant ça, quand même, on va passer le réveillon sur le bateau. Ça. Je ne dis pas.
Ah, oui, ça va être chaud là. J'imagine assez bien.
Et puis, bon, mais vous connaissez tous le Maroc, hein, qui est un pays merveilleux, superbe. Et magnifique. Donc on va trouver des endroits grâce un petit peu à René et à l'équipe de Rocco qui trouvent toujours des. Même si moi je dirige les grandes lignes, mais les petits endroits à trouver, c'est toujours cette équipe-là.
René Medge, bien sûr.
Voilà.
Ouais.
Avec Manfred Cross, qui est un ami de longue date aussi. Donc, la bonne nouvelle, c'est en Mauritanie, c'est Chinguetti. On va passer à Ouadan aussi.
Oui.
Donc, voilà.
On connaît bien aussi. Ouais.
Bon, ben là, on prend du sable plein les yeux. Ce qu'on espère, c'est de ne pas avoir de tempête. En 10 éditions, on en a eu qu'une année avec une tempête de sable pratiquement chaque jour.
Et à cette période de l'année, hein, à ce niveau, effectivement, plus tu descends vers Dakar, et on le sait bien, Jean-Louis, plus tu as de chance ou de malchance d'avoir cette tempête de sable.
Voilà, donc, mais on a eu quand même pas mal de vols puisqu'on n'en a eu qu'une seule fois.
Ouais.
en 9 ans. Et je crois que, Inch'Allah, comme on dit, j'espère que cette année, on aura du beau temps, c'est tout ce qu'on souhaite, hein. Et puis surtout pas d'accident à notre épreuve, tu vois.
Oui, on touche du bois.
9 ans, voilà, on n'a jamais eu de gros pépins.
Adrien, une petite question pour toi, je veux juste rappeler que c'est 6500 km de rallye, dont, et tu l'évoquais, hein, 4000 km de spécial, donc une large proportion de spécial. Adrien.
Jean-Louis, ma question, elle est peut-être bête, mais quel type de voiture exactement sur ton rallye, c'est les mêmes voitures Ouais, dis-moi.
C'est bien parce que les spectateurs, les auditeurs
ont besoin de savoir. Alors
en fait, on a moto, bien sûr, quad, auto, dont pas mal des CSV qui sont extraordinaires.
Ouais, ce sont des engins là, très légers,
incroyables. Ouais, ouais. Voilà, surtout dans le sable. Ceux qui vont avoir des CSV, à mon avis, vont taper les voitures sur certaines étapes. On a les camions. Et on a dans les camions la chance d'avoir un gars qui part tout seul. Donc lui, tu vois, quand tu veux changer une roue, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et puis,
faut trouver une voiture de raideur.
Voilà. Donc ce que comporte nos épreuves. Après aussi l'Africa Race, c'est pour ça qu'on l'appelle Eco Race. On a des petits projets autour de l'Africa Eco Race, c'est-à-dire que grâce à nos participants, qui pour la plupart, il y a 30% de participants qui ont des associations, et chacun y va de son cadeau. Alors bon, il y en a, il ramène un lit d'hôpital, l'autre ce sont des outils chirurgicaux. Il y en a un qui nous a fait cadeau un jour d'une ambulance. Nous, on a donné des panneaux solaires pour une école que nous avons à Noisy-le-Grand. Et cette année, avec l'AMAD de Monaco, donc c'est une association qui a été créée par la princesse Grace en 1963, eh bien, il y a une usine, alors tu vas voir, c'est assez incroyable, il y a une usine qui se trouve au Burkina Faso.
Ouais.
Nous, on va financer 1000 lampes, on va offrir 500 pour la Mauritanie, 500 pour le Sénégal, à des jeunes étudiants qui n'ont pas la chance d'avoir électricité chez eux, et surtout qui n'ont pas la chance d'avoir électricité et qui sont dans des endroits circulés, on leur fait cadeau de ces lampes qui peuvent permettre d'étudier la nuit. Tu vois, ce ne sont pas des petites lampes qui fonctionnent avec l'énergie solaire.
Autonome. Alors justement, Jean-Louis, je voulais rappeler aussi les grands chiffres. Hein. Il y a 185 participants, pour répondre aussi un petit peu à la question d'Adrien, 25 nationalités, 100 véhicules engagés, et tu l'as évoqué il y a un instant, donc des motos, des quads, et c'est ce mix qui a fait le charme aussi de ces épreuves-là. On voit Jean-Luc Chrétier qui est avec nous, qui a les yeux allumés aussi, et oui, les autos ou SSV, parce que ça c'est quand même un drôle d'engin. Les gros camions...
C'est une révolution.
Ah, c'est une révolution. Ouais, c'est une autre manière d'aborder
Je connais bien Jean-Luc, je salue. Hein, et Jean-Luc, moi je t'invite à venir avec un SSV. Je crois que, en plus, il a un super coup de volant. Je crois qu'il pourrait faire son chemin là, sur Africa Race avec un SSV sans problème.
Et bah écoute, je prends note de ton invitation, Jean-Louis, et je t'en remercie.
Et Jean-Louis, on peut dire que donc, tu l'as rappelé, qu'il y aura évidemment tout ce qu'il faut pour encadrer cette épreuve, hein, puisqu'au total, il y a 57 véhicules d'organisation. Tu vois, tout ça, c'est un peu des chiffres bruts, mais bon, ça donne une idée. Il y a 140 personnes qui vont encadrer toute cette équipe, effectivement, qui va traverser finalement
finalement quatre pays, puisque, enfin, je dirais même cinq, allez, si tu veux bien. Il y a Monaco, il y a la France, et puis il y a naturellement les pays africains dont nous avons parlé, à commencer par le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, voilà.
On a trois hélicos aussi, 22 personnes pour le médical, tu vois. On produit des images aussi, on a 18 personnes pour les productions d'images télé. Non, c'est vraiment une grosse organisation, hein, 140 et quelques personnes dans l'orga.
C'est clair.
C'est important et en tout, on sera environ 700 personnes, tu vois. Donc, à vous de venir, les gars.
Ça fait du monde.
nous, on va le faire. On va le faire avec plaisir. Et puis aussi, n'oublions pas que nous arrivons sur l'endroit magique de Dakar.
Ouais.
C'est le Lac Rose. Et ça, inoubliable. Pour
l'arrivée traditionnelle au Lac Rose, on a connu ça, nous, avec le Dakar, évidemment, à l'époque. Hein.
Voilà. Ouais, alors, dernière petite chose, on ne laisse absolument personne sur le côté, tu vois. Moi, j'ai souffert de ça une fois sur le Dakar à l'époque, c'était en Mauritanie. Ouais. Pas en Mauritanie, en Libye, pardon. On donne la chance à celui qui a un problème de venir rejoindre le bivouac le lendemain ou de repartir. Bien sûr, il ne sera pas au classement, mais il aura la chance qu'il a économisé toute l'année de pouvoir voir le Lac Rose si c'est la mécanique tient.
C'est important, un peu comme en championnat du monde des rallyes. Hein. On sait que si tu as un problème mécanique, tu peux revenir effectivement dans cette épreuve et te faire plaisir. Peut-être Jean-Luc Chrétien a une autre petite question à poser. Les nuits en bivouac le soir, chaleureuses, tu vois l'ambiance.
T'as prévu les bougies naturellement. Et puis moi, je garde un très très bon souvenir de la petite du petit passage que j'avais fait sur le rallye de Tunisie avec où tu étais d'ailleurs. Et donc je te remercie tout à l'heure de ce petit souvenir de moi qui m'a marqué.
Oui,
qui
me bien sûr, je me rappelle.
Venant de toi, ça me marque.
On peut en parler, tu avais un Mitsu qui était un peu rouge comme ça. Ouais, je me rappelle très bien. Peut-être gagné cette année-là, j'en sais rien.
Bah, écoute,
effectivement, à cette époque-là, je gagnais presque toutes les courses. C'était la bonne période.
Une belle période, oui. Et puis on rappelle.
Tu nous faisais rêver, Jean-Louis, à l'époque. Moi,
avec ton bubi. Tu te pilotais de main de maître.
Et comme un diable. Tu te rappelles que Jean-Louis, c'est un pilote comme on les aime. Hein. C'est un pilote qui va vite partout. Même fait de la Formule 1 et puis surtout de l'endurance avec un palmarès extraordinaire. On va pas te faire grossir, Jean-Louis.
Bon, écoute. Avec le pauvre Soumy qui... Je vais vous raconter un tout petit truc. Je sais pas si on a le temps, mais...
Vas-y, allez, on la prend la minute.
À quelques jours près, malheureusement, Soumy devait venir. Il avait vu une course, il avait vu le film de la course que nous avions fait avec Kini Gartner sur l'Africa Race, et il a dit l'année prochaine avec le grand skieur autrichien, comment il s'appelle, Hermann Mayer, voilà, il voulait venir faire l'Africa Race en moto. Et donc l'année où il a eu son accident, en fait, il devait être avec nous, on devait être et par manque de préparation, ils ont dit bon ben tant pis, on le fera l'année prochaine, tu vois. Il est venu avec nous, bon, il a peut-être eu un accident en moto, mais tu me diras.
C'est le destin, comme on dit toujours à chaque fois. Ouais, c'est le destin. Écoute. Merci pour on aura une petite pensée pour Choumi, évidemment. Merci pour cette anecdote.
On va te suivre, Jean-Louis.
On va suivre ça. Du 31 décembre,
Avec plaisir. En tout cas, sachez que Africa et Corée, c'est une vraie course qui va à Dakar. Voilà.
On y croit. Merci Jean-Louis. Très sympa et en tout cas avec une belle ambiance. Salut Jean-Louis Chesser.
Passez une bonne et bravo à vous. Oui. Bonne journée.
C'est toujours un plaisir de recevoir des gens passionnés dans cette émission Motors. On marque une minuscule pause, mais rassurez-vous, c'est pour mieux repartir dans la troisième ligne droite de Motors, l'émission des sports mécaniques sur RMC. Vous restez avec nous.
RMC Motors, en direct de Val d'Isère pour les RMC Sport Games. Jean-Luc Roy.
Et oui, ce moteur ce spécial dans la neige, effectivement, on aborde la troisième ligne droite. Et c'est le fameux, vous l'attendez, le fameux Radio Paddock.
RMC Motors. World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys! Radio Paddock.
Eh oui, nous, l'avantage, c'est qu'on est champion du monde chaque semaine et avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut les amis, salut à tous.
Salut Benoît.
J'ai pas mal de sujets à aborder avec vous, messieurs. Et je vous propose de démarrer avec le rallye. Eh oui, évidemment, on a beaucoup parlé de Sébastien Ogier. Il s'est enfin exprimé sur sa prolongation chez M-Sport. Jean-Luc, on en avait fait un vrai feuilleton, évidemment, dans Motors, un feuilleton hebdomadaire. On va le rappeler, nous on espérait secrètement qu'il signe à Citroën. Bon, ça c'est pas fait. Mais bon, le quintuple champion du monde va quand même rester dans la structure privée de Malcolm Wilson. L'ancien pilote britannique d'ailleurs qui lui a forcément apporté des garanties sur la voiture de 2018. On va l'écouter justement, Sébastien Ogier, sur le nouveau défi qu'il attend pour l'an prochain.
Il y a quand même beaucoup de signes en interne qui, en tout cas de certitude aussi en interne, quant à la possibilité de pouvoir faire évoluer la voiture, et c'est un paramètre important. Sans ça, voilà, comme je disais, je pense que c'était pas possible de pouvoir continuer à lutter pour le championnat. Donc non, maintenant il va falloir travailler d'arrache-pied, parce que ça va pas non plus se faire automatiquement. C'est pas parce qu'on a accès à plus de développement ou peut-être un peu plus de moyens. Il faut quand même faire le boulot de notre côté pour justement faire progresser la voiture. Et ouais, on est conscient qu'on a du pain sur la planche, mais en tout cas c'est une fois de plus un challenge motivant.
Alors Jean-Luc, c'est passé pour la saison qui vient de s'écouler, hein, une structure privée, on le rappelle, donc forcément plus de difficultés. Est-ce que ça peut encore passer en 2018 à ton avis?
Écoute, oui, je crois que la période la plus difficile, ils l'ont passée, parce qu'effectivement, c'était un choix extrêmement audacieux quand on est déjà 4 fois champion du monde et qu'on a évidemment travaillé pendant 4 ans dans une structure aussi puissante que celle de Volkswagen, de tout parier sur une petite équipe. Hein. Il faut rappeler que cette équipe de Malcolm Wilson, c'est une équipe privée. Alors, je pense que Sébastien et Malcolm ont dû recevoir quelques informations de la part de Ford, parce que la clé, c'était ça, l'implication du constructeur américain pour venir aider au développement, pour lutter contre les mastodontes que sont, et tu l'as évoqué, moi j'avoue que ça reste, je l'avais dit avant, donc je le dis maintenant, et oui, un ratage énorme de la part de Citroën, je suis désolé de le dire. Bon, on l'a déjà raté l'an dernier, alors qu'il devait quitter Volkswagen, qui lui quittait le championnat du monde. On l'a raté une deuxième fois, j'avoue que je suis un peu consterné, mais bon, tant mieux pour Ford, voilà ma conclusion.
Mais pourquoi, à votre avis, c'est parce que l'ombre de Sébastien Loeb plane toujours sur Citroën?
Non, moi honnêtement,
avis,
je pense pas. Honnêtement, non. je pense que Sébastien Ogier, c'était quelqu'un de très très intelligent et qui est en train de mesurer le pour et le contre. Il a gagné cette année avec un programme qui a été monté un peu à l'arrache. Je vois pas comment on va l'arrêter l'année prochaine avec beaucoup plus de préparation, avec un soutien de Ford. Ils ont sûrement eu des garanties quelque part. Bon, même s'il y a aucune garantie que plus de ressources ça amène de la performance, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, il est très fort, il est très intelligent, et le choix, je pense que il le fait purement sportivement.
Et puis on va rappeler juste, Benoît, quelque chose, c'est que l'importance de l'homme dans le résultat en rallye est nettement supérieure. Oui. Parce qu'elle est en Formule 1, pour être très clair. Hein, oui. Parce que la valeur de l'équipage, et là, c'est le meilleur équipage de très loin. Voilà.
Et en plus, c'est vrai qu'il a adapté son pilotage, si on peut dire, Jean-Luc, puisqu'il a gagné très peu de rallyes, finalement,
oui,
sur la saison qui vient de s'écouler. Mais il a été tellement régulier qu'en fait, c'est ça qui l'a conduit au titre. Contrairement à ses concurrents directs, ça lui a permis d'empocher donc un cinquième titre de champion du monde WRC consécutif. Ça va vous faire plaisir, on va parler de Formule 1 désormais. Et oui, puisque le calendrier 2018 de la Formule 1 a été communiqué, c'est officiel désormais. Adrien, Jean-Luc, 21 Grands Prix ramassés en 8 mois. Est-ce que c'est un peu trop, d'après vous?
Jean-Luc, vas-y.
C'est jamais trop.
C'est jamais trop.
Je vais te dire, écoute,
tu vas me dire ça, évidemment.
Bah oui, non, mais moi, évidemment, mon avis, si tu veux, c'est que plus il y a du plaisir et il y en a, on aura 21 manches, comme tu l'évoquais, puisqu'on a le retour, on a le plaisir de saluer le retour du Grand Prix de France. Et d'ailleurs, on rappelle que RMC, le partenaire radio, c'est la plus belle. Ça va être un retour formidable 10 ans après. Hein. Dernier Grand Prix, c'était 2008 à Manicourt. Donc ça, c'est génial. On a le retour du Grand Prix d'Allemagne également, qui manquait quand même au calendrier. C'est un des grands pays. Ce sera Hockenheim. Mmh. Et donc, ce sera effectivement au mois de juillet. Alors la Malaisie s'en va. Bon, 21 Grand Prix, c'est un beau calendrier. Hein. Ça démarrera effectivement à la fin du mois de mars et ça se terminera à la fin du mois de novembre. Non, c'est pas trop. Voilà, si tu veux.
Qu'est-ce que t'en penses, Fabrice?
Mais moi je pense que pour les gens en général, pour les passionnés de Formule 1, c'est incroyable. Après, c'est un vrai challenge pour les pilotes, un peu moins que pour les équipes, mais pour les équipes au niveau de la logistique et les mécaniciens, surtout quand parfois on a 3 grands prix les uns sur les autres d'une semaine, une semaine après l'autre à gérer, c'est très très compliqué, la fatigue. Les pilotes ne font pas seulement les grands prix, ils ont en plus plein d'obligations, donc ils vont pas être beaucoup à la maison, mais bon, c'est le métier qu'on fait. Et qu'on aime faire, on vit pour ça, donc le plus le mieux, je dirais.
Ouais, on peut rappeler les dates hein, d'ailleurs du Grand Prix de France, Jean-Luc, c'est du 22 au 24 juin prochain. La billetterie est ouverte, donc si vous voulez y aller, il faut pas tarder à prendre des places évidemment. Sur ce circuit Paul Ricard, les travaux ont commencé au Castellet, donc évidemment tout sera prêt pour cette date. Et vraiment pour les puristes, on peut rappeler également, Jean-Luc, qu'il y a une inversion de date entre Bahreïn et la Chine. Hein. C'est un détail forcément pour ceux qui sont pas forcément des grands amateurs de Formule 1, mais ça a peut-être son importance. Ça fera fera Australie, Bahreïn et Chine. C'est ça, Jean-Luc?
C'est ça, tout à fait. Effectivement, c'était le calendrier qui a été validé par la réunion de la Fédération internationale là, le 6 décembre. Donc c'est vrai que c'est un départ en fanfare. Je voulais demander, moi, à Jean-Luc Chrétien, qui est toujours avec nous. Jean-Luc, effectivement, plus il y a d'épreuves, plus il y a de plaisir. En ski, ça se passe comment? Il y a combien d'épreuves dans une Coupe du Monde? Et là aussi, on l'a vu, hein, pour être performant et décrocher un titre, il faut y penser dès le début. Il faut accepter parfois d'être deuxième ou troisième pour prendre les points.
Ben, il faut accepter toutes les places, quelle que soit la place, qu'elle soit devant ou derrière. Dès qu'il y a des points à marquer, c'est à la fin de la saison qu'on comptera les plus et les moins, qu'on fera les bilans, et des fois ça joue à un point. Donc non, moi je pense que pour revenir un petit peu en arrière, juste... 21 Grand Prix, c'est juste bien équilibré. Faut pas plus, sinon après on voit plus de ski.
De toute façon, ça démarre toujours en mars. Hein. Ça n'a jamais débuté avant le début du mois de mars. Donc, sois tranquille.
Ce qui tombe, là où ça tombe bien, c'est que nous, la saison finit le 15 mars.
Ah oui,
elle démarre fin novembre. Donc, faut pas plus.
25 mars, il y a l'Australie, toi, avec les essais. Bon, nickel.
En fait, on passe du ski à la Formule 1. C'est voilà, ça qui est fantastique.
C'est les trajectoires. Hein. On reste sur,
il y a tellement de points communs. Il y a tellement de points communs.
Puis, je vais dire, c'est des sports de couillus. Voilà, je l'ai dit. Ah oui, il faut du courage, si vous préférez. Voilà.
Jean-Luc, tu veux nous dire un mot juste sur la saison qui arrive, le système de pénalité moteur sur la grille qui a été changé? On n'aura plus 45 places de retard sur la grille. En gros, ce sera au-delà de 15, le pilote sera directement renvoyé en fond de grille. Hein, c'est à peu près ça.
Ouais, bah c'était ridicule. Écoute, ça fait quelques saisons que je le dis sur RMC, c'était grotesque, quoi. Personne ne peut comprendre. Et tu sais, ici, il y a beaucoup de sportifs, évidemment, aux sportifs de très haut niveau, de milieux différents, qui sont tous prêts à se passionner à nouveau pour la Formule 1, mais le règlement est trop complexe, il est incompréhensible. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, la grille, tu la faisais quasiment pas par l'avant, mais tu la fais par l'arrière. C'est-à-dire, tu regardes entre celui qui a 65 places de pénalité, celui qui en a 40, celui qui en a 35. Enfin, tu sais même pas pourquoi. Là aussi, frapper des pilotes pour des problèmes mécaniques, c'est une hérésie totale.
En marche arrière bientôt.
Voilà, mais en marche arrière depuis les stands.
Bah, à la limite, ça serait marrant. Mais là, là parfois, c'est pas marrant d'avoir
les numéros perdent dans un sens, les uns perdent dans l'autre. Non, mais bon, on dit n'importe quoi là. Mais c'est vrai qu'à un moment, tu ne comprends plus. Donc c'est une bonne nouvelle, bien sûr, Benoît, tu as raison. Et puis de toute façon, tout ce qui va dans le sens de la simplification et de la clarification, c'est bienvenu.
Et on va parler d'une reconversion pour terminer Radio Paddock, la reconversion dans le sport auto pour François Fillon, l'ancien Premier ministre qui était candidat aux dernières élections présidentielles. Et oui, il a été nommé président de la commission constructeur de la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile. En gros, Jean-Luc, il sera là pour renégocier les accords qui devront régir la Formule 1 à partir de la saison 2021. C'est quand même un poste à responsabilité pour François Fillon.
Ah, grande responsabilité. Eh oui. Écoute, ça, je pense qu'effectivement, il faut y voir là, on l'a dit, Jean Todt réélu pour son troisième mandat de 4 ans à la tête de la FIA. Eh bien, effectivement, il a sorti, entre guillemets, un joker et un beau joker du chapeau parce qu'il est vraiment passionné, François Fillon, de sport mécanique. Même si, j'ose le dire, tant qu'il était aux affaires, comme on dit, et Premier ministre, il a mis ça un peu de côté parce que tu sais, en France, c'est pas toujours bien vu d'être fan de sport mécanique.
Bah, oui, voilà, mais on peut rappeler que son frère est président de la CO et il gère notamment les 24 heures du Mans depuis 2012. La CO, c'est l'automobile, Club de l'Ouest.
Oui,
donc,
qui organise les 24
heures du Mans. La famille Fillon est passionnée de sport.
C'est dans les gènes. C'est dans les gènes, c'est ça.
Et d'ailleurs, François, il est honnête, il dit toujours, Pierre est beaucoup plus rapide que moi au volant. Donc,
non, mais ce qui est bien, Jean-Luc, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'on pourrait imaginer, pourquoi pas, puisque les politiques peuvent intégrer le sport auto, Anne Hidalgo à la tête de la FIA, ça te ferait très plaisir, je suppose.
Tu veux m'empêcher de dormir, là, ça y est.
Pour la neige, c'est bon, on en a déjà assez. Hein.
C'est ça.
Ou à la tête de la Formule E, peut-être, Jean-Luc, ce serait.
Écoute, remarque, tu sais, tout le monde a droit à une rédemption. Peut-être qu'un jour, si j'arrive à lui expliquer clairement, elle comprendra ce que c'est que le sport automobile, il n'y a pas de problème. On y croit.
Bon, ben, voilà, merci Benoît. Merci messieurs, on a parlé de Fillon, on a parlé de Formule 1, on a parlé d'Ogier surtout, qu'on retrouvera rapidement évidemment sur RMC.
Génial. Merci beaucoup à toi Benoît pour cette participation. Et puis merci à Dan Torres qui est aux manettes à Paris et Philippe Michon qui est aux manettes ici à Val d'Isère. Merci à Pierre Amiche, notre producteur qui est là pour produire cette émission. Et puis on va passer à un relais, on aime bien ça dans les courses d'endurance, effectivement. Un relais sous la neige ici dans le ski. Merci à Jean-Luc d'être resté. Merci
à toi,
Adrien.
Jean-Luc. Merci, messieurs.
On va descendre à la luge maintenant, Adrien. Maintenant, c'est Intégral Sport, et ça, c'est pas sur le gravier, sur les cailloux. Arnaud Souk,
si vous parvenez à descendre, hein, ce qui est quand même loin d'être
gagné. Je te disais, on descend toujours.
On va y arriver à descendre. Moi, je pense que je vais prendre les skis ce soir pour descendre.
Prends les raquettes,
si tu veux, il n'y a pas de souci.
Salut à tous.
Il n'y a pas de problème. De ski, évidemment, il va en être question. On va revenir sur la victoire de Marcel Hirscher dans l'Intégral Sport dans un instant. victoire du slalom de Val d'Isère. On sera avec Jean-Luc Chrétien, avec Sébastien Hamet de la Dream Team. Programme très alléchant, La Rochelle Wasp, ça c'est la troisième journée de Champions Cup de rugby que l'on voit à 14h. Si vous êtes supporter clermontois, vous allez être forcément être déçu parce que le match de Clermont est tout simplement annulé, reporté. Il y a de la neige également en Angleterre, Clermont qui devait jouer chez les Saracens, mais voilà, la neige empêche les supporters de se rendre au stade et du coup les organisateurs ont décidé de reporter cette rencontre. La Ligue 1 également au programme, Amiens-Lyon, c'est le 8e match de la 17e journée de Ligue 1, c'est à 15h le coup d'envoi. On parlera également de Nantes-Nice à partir de 17h et puis comme d'habitude évidemment la Première Ligue, notamment Liverpool-Everton, le fameux derby de la Mersey, c'est à 15h15. À tout de suite dans l'Intégral Sport.